A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
EA voudrait se vendre, mais qui peut les acheter? On a des infos de Sony sur le programme PlayStation pour 2022 et 2023. Une annonce pour Marvel Snap, un nouveau jeu mobile de cartes qui est assez intéressant dans son design. Et c'est tout de suite sur le rendez-vous jeu. Je crois que j'ai dit rendez-vous jeu. C'est perturbant tout ça. Salut Lou, comment ça va ?
Ça va très bien, et toi ?
Écoute, je n'ose pas dire que mes enfants sont malades, parce que ça va devenir une running joke, mais mes enfants sont malades, donc on est crevés. Mais rien ne nous arrête, ni jour férié, ni enfants malades, ni quoi que ce soit d'autre. On est là pour le rendez-vous tech. Non, le rendez-vous jeu.
Oh là là, faut se reposer, mon cher Patrick.
Ah, Mélou, ça j'aimerais bien, ça j'aimerais beaucoup. Je disais, il y a quelques jours, je disais sur Twitter, ah, je suis tellement crevé. Et il y a quelqu'un qui me répond, bah, fais une sieste.
Ah, les conseils de Twitter, c'est toujours bien.
C'est ça, ouais, exactement. C'est vraiment, je suis pauvre. Bah, arrête.
Voilà, bon, c'est ça, exactement.
C'est le genre. Mais donc, on est le 26 mai, on est dans l'épisode numéro 240 du Rendez-vous Jeu avec un gros programme et il y a bien sûr les remerciements aux Patriotes. Cette semaine, Guillaume Vendée nous a rejoint dans le Patreon du Rendez-vous Jeu, donc merci beaucoup à lui. Il était d'ailleurs dans le Rendez-vous Tech en tant qu'invité cette semaine, donc si vous voulez du Guillaume partout, vous pouvez aussi écouter le Rendez-vous Tech. Et le producteur de cet épisode, Steph Sinalco, qui a droit à son petit... Vous remarquerez que j'ai baissé le son des effets parce que certains m'ont fait remarquer que... Alors, d'une part, certains m'ont dit qu'ils n'aimaient pas les effets. On va les utiliser peut-être avec un peu plus... Ah, tu es outré, non, Lou ?
Ah, je suis super outré quand même.
Ouais, n'est-ce pas ? Ils sont magnifiques, ces effets sonores. Bon, il y en aura peut-être de temps en temps quand même. Les musiques de transition, ça passe entre les sections. Mais dans tous les cas, j'ai baissé un petit peu le son. Donc, ça ne va plus vous exploser les oreilles. Ça sera déjà ça de gagné. Et merci donc à Steph Sinalco et à Guillaume Vendée qui sont patriotes. Patreon.com/RDVjeux, évidemment, vous connaissez. D'ailleurs, pour les patriotes, on aura un petit after show après l'émission. Normalement, si tout va bien, si les enfants ne surgissent pas dans la pièce avant la fin de l'émission. Il y a quelques trucs dont j'aimerais parler, dont les options d'accessibilité pour God of War. J'aurais quelques trucs à dire, c'est peut-être pas un sujet qui nécessite un traitement dans l'émission principale, et quelques remarques sur le Game Pass, avec des gens qui expriment leur frustration sur le Game Pass, on en parlera aussi, mais pour le moment, les sujets principaux dont on va discuter, et le premier d'entre eux, on a EA qui est en train d'essayer de se vendre, Lou, Lassina, ah oui. Foubert, alors... Combien de fois, d'abord, avant de parler d'IA, combien de fois dans ta vie est-ce qu'on t'a appelé Lou Lassina Flaubert ? Ça, c'est la fois importante.
Beaucoup trop de fois. Oui, j'ai eu toutes les variantes. Hein. C'est pas la plus fréquente. C'est Flaubert, souvent. Ouais, Flaubert. C'est pas Flaubert le plus souvent, c'est Flaubert. Okay. J'ai eu l'assassinat aussi, très souvent. C'est vrai, hein ? Je plaisante pas.
Lou Lassina, c'est, tu dis, la personne qui fait cette erreur, tu te dis, vaut mieux faire un pas en arrière quand même, on sait
exactement.
Jamais.
Et Lou Lassan aussi, enfin bref, on va pas parler de...
Bon, écoute, information extrêmement importante donc, à laquelle suit l'information que Electronic Arts serait en train d'essayer de se vendre. Alors, on a l'habitude des acquisitions dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui. C'est quelque chose qui, depuis quelques années, est venu hyper fréquent. Enfin, il y en a eu des monumentales. On en a parlé dans l'émission à chaque fois, que ce soit la plus récente Activision par Microsoft il y a quelques mois de ça. Ce qu'on pouvait imaginer du côté d'IA, c'était plutôt des rachats de studios, d'autres studios. Mais selon un rapport de notamment Kotaku, il y a eu des discussions entre IA et différentes sociétés parce qu'ils essayent, eux, de se vendre à une plus grosse boîte. Et alors, EA, c'est monstrueux, hein, c'est monumental, c'est 10 000 employés, c'est une liste de studios absolument interminable. Et du coup, ça pose la question de qui peut racheté EA. Parce que du côté de Sony, je sais, bon, ils auraient sans doute les épaules, mais enfin, c'est un truc très très lourd. Microsoft, comme on le disait, ils ne vont pas faire de bruit jusqu'à ce que l'acquisition d'Activision passe par toutes les étapes de régulation. Et du coup, il reste qui ? Bah, ils sont allés voir visiblement des géants de la com, des médias comme Comcast, ils sont allés voir Apple, ils sont allés voir Disney. À ce stade, ça n'a pas du tout, ça n'a pas donné quoi que ce soit. Donc les discussions n'ont pas avancé à un niveau qui serait substantiel. Mais il n'empêche, EA essaye de se vendre. Donc oui, les deux questions, c'est qui pourrait racheter et puis pourquoi est-ce qu'EA essaye de se vendre et puis qu'est-ce que ça pourrait donner. Enfin, moi, ça m'a un petit peu surpris comme info. Je sais pas si Lou, toi, tu te dis non, bah si, ah. Pourquoi pas, mais.
Bah déjà, tu parlais du. Maintenant, on a l'habitude. T'as introduit comme ça. Et moi, quand j'ai lu cette annonce, ça a créé une espèce de dissonance cognitive. Je me disais, mais c'est pas possible. C'est trop énorme. C'est pas. Pourquoi ils chercheraient à se vendre, tu vois? Et en même temps, depuis Activision Blizzard, on est plus surpris. C'était tellement un coup de tonnerre déjà que ça semblerait presque pas si fou que ça. Donc déjà, voilà, le marché est assez surprenant en termes de
jeux vidéo actuellement. Je t'avoue que s'il n'y avait pas eu Activision Blizzard racheté par Microsoft, j'aurais même pas cru de cette histoire de EA qui essaye de se vendre. On s'aurait dit, mais vous rigolez.
C'est évident.
Ouais.
C'est évident. Et du coup, ça, moi-même, je m'interroge aussi quand même sur la crédibilité, tu vois, malgré tout. Mais parce que je vois pas forcément leur intérêt. Après, bon, je suis pas un spécialiste du business, mais je vois cette façon qu'ont les acteurs de vouloir vraiment se renforcer et grossir et des espèces de pas des monopoles, mais en tout cas des pôles très importants de création. En même temps, tu vois, ça m'interroge quand même au niveau créatif. Forcément, ça pose des questions à ce niveau-là. Et surtout, quelle est leur ambition de vouloir se faire racheter? Quel serait leur but, en fait? Est-ce qu'ils imaginent déjà des nouveaux modèles? Puisque parmi les acteurs approchés, il y a Amazon. Donc, est-ce que ce serait des nouveaux modèles de distribution de jeux, etc.? Enfin, on peut imaginer. Il y a Disney aussi dans la liste. Je trouve ça assez intéressant parce que je suis un grand joueur des Sims, comme ceux qui me connaissent le savent. Et j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait au niveau de Star Wars dans les Sims avec un travail assez intéressant sur une extension qui était dédiée, qui s'appelait Voyage sur Batuu, avec, tu pouvais incarner quelqu'un de la Résistance ou quelqu'un de l'Empire, des petites missions, des personnages cultes de la licence. Ça aurait pu être mieux, évidemment, comme d'habitude, mais je trouve que c'était une bonne manière, en tout cas, qui n'était pas trop gimmick, de travailler sur l'univers Star Wars. Donc, c'est vrai qu'un rapprochement avec un pôle créatif comme les Disney et avec une convergence qui pourrait s'amener du coup dans divers jeux, dans divers licences, ça pourrait être intéressant à mon sens, mais je sais pas si j'y crois vraiment. Activision Blizzard, j'ai encore du mal encore aujourd'hui à réaliser, tu vois. J'ai beau le savoir, je me dis mais à quel moment, tu vois.
Non, mais je suis d'accord. D'ailleurs, il y a des gens dans la chatroom qui nous demandent mais ça vaut combien EA? Et je serais complètement incapable de te répondre. Alors, je suis sûr que si on était plus dans les finances, on dirait alors attends, ils ont un revenu de temps. C'était autour de 5-6 milliards en 2020, le revenu. Donc, alors, en fonction du revenu, tu te dis ça vaut tant par année, donc tu peux lisser sur tel truc. Mais enfin, aucune idée. Activision Blizzard, c'était 75 milliards à peu près. Est-ce que EA, c'est beaucoup plus, beaucoup moins? Aucune idée. Et du coup,
c'est le catalogue de licences qu'il y a derrière, surtout. Je parlais des Sims, évidemment, qui est le jeu vidéo le plus vendu sur PC, avec je sais même pas combien d'extensions. On est à plus de 1000 balles, je crois, si tu vas acheter tout l'ensemble des Sims 4 avec toutes les extensions, tout ça. C'est juste la folie. Puis tout le catalogue d'e-sports, enfin voilà, ils ont un catalogue de malades.
Ils ont e-sports, effectivement. Alors, ils se séparent de FIFA en 2023, mais ça ne veut pas dire on verra ce que ça donne, mais ça reste une licence hyper forte, le jeu de foot d'EA. Ils ont BioWare, même s'ils ont fait des erreurs ces derniers temps, ça reste BioWare. Pareil avec DICE, la licence Battlefield, elle reste hyper importante. Ils ont Criterion, ils ont plein de jeux. Ils sont présents sur le mobile également. Ils ont Maxis, PopCap, qui est également un développeur.
Ouais, alors, On peut en reparler du rachat de PopCap, mais la façon dont ils ont extrêmement mal géré les licences de PopCap qu'ils ont rachetées, c'est un massacre, c'est triste.
On pourrait en parler pour d'autres aussi. Hein. BioWare, par exemple, ils n'ont pas eu, comme on disait, que des succès depuis le rachat. Mm. Mais ils ont Respawn, qui est un petit peu un vent de fraîcheur sur EA et dont Vince Zampella gagne en puissance chez EA. Donc ils ont beaucoup de choses, ils ont des licences, ils ont des studios, enfin c'est une grosse machine quoi. C'est clair qu'on peut les comparer, ils sont au niveau, c'est 10 000 employés comme je le disais, ils sont au niveau de Activision, de Ubisoft, voilà, il y en a quelques-uns dans cette catégorie de développeurs-éditeurs, il n'y en a pas des millions. Maintenant, effectivement, ils se tournent à mon avis pour un potentiel rachat, j'imagine que c'est parce qu'ils veulent de l'argent. Ils se disent le marché est propice à des rachats. Et donc, si on réussit à trouver un acheteur à un cours plus élevé que l'action, on se fait tant et tant d'argent. Et les actionnaires en ressortent gagnants. Je me dis, c'est peut-être pour ça. Mais oui, ils sont obligés d'aller chercher du côté de géants qui sont encore plus grands que ceux de la simple industrie du jeu vidéo, entre guillemets. Il y avait Amazon, il y avait Apple, il y avait Disney. On pourrait imaginer, même s'ils n'ont plus l'exclusivité des licences Disney à partir de l'année prochaine. Ils ont quand même des jeux Disney qui fonctionnent bien. Ils ont la suite de Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Fallen Order qui va arriver. Enfin, il y a d'autres jeux dans ce domaine. Et puis, on peut imaginer qu'une boîte comme Disney au hasard puisse se dire bah, ça serait pas mal d'avoir notre bras armé de développement de jeux vidéo. Même si jusqu'à maintenant, ils semblaient être satisfaits de travailler avec plein de boîtes différentes pour les faire développer sans eux avoir à gérer ça en interne. Apple n'a pas l'air hyper intéressé par l'idée de développer des jeux eux-mêmes. Amazon, ils se sont un petit peu cassés les dents. J'imagine qu'ils font un peu marche arrière. Ou en tout cas, ils ne vont pas aller investir dans un truc comme il est. Donc, je ne sais pas qui pourrait les racheter. Quoi. J'imagine que ça va rester à l'état de projet, mais c'est quand même une news importante. Quoi.
Mais tu le disais, hein, Disney, ça fait longtemps qu'ils galèrent un petit peu avec les jeux vidéo. Il y a eu une époque où ils nous sortaient vraiment des bouses, des jeux vraiment pas terribles. Donc peut-être qu'ils pourraient effectivement s'en sortir comme ça. Mais je pense que c'est vraiment en rapport plutôt avec la distribution. Ils cherchent vraiment une évolution du modèle, comme tu vois, de façon l'économie du jeu vidéo est aussi en train de se transformer. Donc la question se pose là. Mais si tu te souviens bien aussi, à une époque, c'était EA surtout qui rachetait des studios. Et à chaque fois qu'un studio était racheté par EA, on craignait vraiment pour la suite des licences.
Ah, c'était la peine de mort.
C'était vraiment catastrophique. Oui. Donc du coup, c'est assez ironique que maintenant, on veut se faire vendre finalement.
Ouais. Bon, on nous rappelle, merci Croco, c'est 68 milliards, Activision Blizzard, pas 75. Et Padbon nous dit, la légende dit qu'EA fera une loot box pour y mettre et vendre ses actions pour se faire racheter. On est à deux doigts de faire des NFT dans le métavers.
Oh là là, non.
mais oui, je pense qu'il y a aussi, je suis sûr que dans leur deck de présentation de « Vous ne voudriez pas nous racheter », c'est du genre « Avec nos nouvelles synergies, nous pourrions investir dans des nouveaux modes de divertissement, le NFT et le métavers » et machin, je suis sûr qu'il y a de ça là-dedans et qu'il faut plus d'investissement parce que les jeux coûtent plus cher à développer. Enfin, bref, écoutez, ça se trouve, ça ne donnera rien, ça ne mènera nulle part. On vous en reparlera si ça se concrétise à un moment. Des nouvelles qui viennent de tomber il y a quelques heures à l'occasion d'un investors briefing de Sony, des infos sur le futur pour 2022 et 2023 de la marque PlayStation. Alors on y apprend notamment que le PlayStation VR 2, même si on n'a pas de date pour le lancement, sortira avec plus de 20 titres majeurs des studios Sony et des studios third party, des studios tiers. Donc vraiment, ils soutiennent le lancement du PSVR 2, ils semblent y croire dur comme fer. Ils disent également, pas que sur le PSVR, mais qu'ils vont investir plus que jamais auparavant dans des nouvelles IP, ce qui est plutôt enthousiasmant, on peut commenter dans une seconde, donc plus de nouvelles IP que jamais auparavant. Ils ont également dit qu'ils ont deux jeux-services qui arrivent pour l'année fiscale 2022, c'est-à-dire avant mars 2023. deux jeux services qui arrivent. Je serai évidemment, comme tout le monde, très curieux de savoir de quel jeu il s'agit. Et je ne sais pas quand on va en entendre parler, parce que Kassim, la semaine dernière, qui était dans l'émission, me rappelait qu'il a été très poli et ne m'a pas interrompu pour dire que Sony n'avait pas fait de conférence à l'E3 ces dernières années. Et du coup, il n'y en aurait peut-être pas cette année non plus. Donc, quand est-ce qu'ils pourront annoncer ces choses-là? On ne sait pas, mais on verra. Et ils ont également annoncé qu'ils allaient être très agressifs sur le PC. Bon, pas très agressifs, mais agressifs pour les plans de croissance sur le mobile et sur le PC. Et on a notamment des chiffres sur mobile et PC. Alors attendez que je retrouve, c'est Nibel sur Twitter, Nibelion, qui avait extrait cette slide de la présentation. Les chiffres de vente sur PC pour Horizon, qui était sorti à l'été 2020, il s'est vendu à 2,4 millions d'unités. Days Gone, qui est sorti il y a à peu près un an, s'est vendu à presque 1 million d'unités quand même. Et God of War, qui est sorti en janvier de cette année, est déjà arrivé à quasiment 1 million d'unités. Donc, c'est des gros chiffres. Je ne sais pas pourquoi, moi, je m'attendais presque à un petit peu plus. Ça m'a un peu surpris. Mais c'est quand même imposant. Et la dernière news sur discussion qu'ils ont eue, enfin, cette présentation, c'est qu'ils estiment qu'à partir de maintenant, la disponibilité des PlayStation 5 devrait s'accélérer et ils pensent qu'ils vont rattraper la base installée de PlayStation 4 dès la quatrième année de vie de la PlayStation 5. Donc ça, ils pensent qu'il va y avoir une grosse adoption des consoles, parce que, souvenez-vous, sur la première année, ça avait été très très vite. La deuxième année, c'est-à-dire cette année-ci, ils n'ont pas pu fournir assez de consoles pour satisfaire la demande à cause des contraintes de pénurie de processeurs. Et donc là, ils disent, on a résolu les problèmes, ça va se réaccélérer, donc on peut espérer que d'ici la fin de l'année, les PlayStation 5 seront un peu plus faciles à trouver. Mais donc, ça fait pas mal de choses, hein. PSVR 2, plus de nouvelles licences que dans leur histoire, deux jeux-services, et puis développement mobile et PC. On a parlé du PC, mais pas tellement de mobile. Est-ce qu'il y a des choses qui te marquent plus particulièrement dans toutes ces infos, Lou ?
Moi, ce qui me marque, c'est surtout la stratégie, en fait, que je trouve assez, pas forcément étonnante, mais en tout cas couillue, si on peut dire. Cette fois, c'est ce côté, vraiment, ils investissent à peu près tous les champs, ce qui est très différent, par exemple, d'une stratégie à la Nintendo, qui vont vraiment être, ah, je suis très, très Switch, et je m'occupe de ma petite console, et je fais mes petits jeux, et limite, je me concentre vraiment là-dessus. Et là, tu as l'impression que Sony est vraiment sur tous les fronts. Tout le temps, partout, ce qui est quand même assez, assez impressionnant. T'as les ventes qui suivent sur la PS5, ce qui est pas mal. Mais tu vois, par exemple, je m'interroge beaucoup sur le VR2. Je sais pas trop s'il y a vraiment un marché pour ça. J'ai pas l'impression que la première version nous ait prouvé qu'il y avait vraiment un marché pour ça. Il y a un intérêt, on va dire, rigolo, voilà, une curiosité, je dirais, mais je suis pas sûr qu'il y ait un marché vraiment pour adopter la VR au niveau du jeu vidéo, ou en tout cas que ce soit plus large. Après, il doit y avoir effectivement des études de marché qui leur disent, voilà, ça c'est une portion intéressante de joueurs à toucher. Mais tu vois, 20 jeux, peut-être que c'est effectivement l'effet de levier qui permettrait à la VR de s'installer, parce que c'est aussi ce qui manquait avant, c'était le catalogue, bien évidemment. Tu ne peux pas installer une façon de jouer sans catalogue. Là, ça, peut-être que ça permettra, mais il faut vraiment des game changers, en fait, des choses qui vont vraiment marquer.
Des killer apps. Je pense que le PSVR 1 s'était bien vendu. Ils l'ont vendu à quelques millions d'unités, donc c'est pas ridicule. Mais je crois que tu as tout à fait raison. La question reste entière. Et j'ai l'impression que là, on va avoir la réponse à cette question. Parce que si Sony, avec un appareil qui, rappelons-le, le PSVR 1 était le plus confortable de tous les appareils, et ça compte quand même beaucoup dans ce genre de situation, d'avoir un truc qui est confortable à porter, et on aura sur le PSVR 2 une connexion qui sera simple avec un seul câble, ils en parlent d'ailleurs dans la présentation, donc ça compte aussi, on peut le brancher et le débrancher facilement. Et le catalogue de jeux venant de Sony avec 20 gros jeux, ils disent bien 20 jeux majeurs, hein. C'est pas 20 jeux au total, mais 20 jeux majeurs au lancement. Eh ben, si ça prend pas, je crois que la VR, dans cette version qu'on a aujourd'hui, dans ces décennies-là, ne prendra pas pour le jeu vidéo, parce que plus gros que ça, c'est pas possible. Donc, je crois qu'au lancement de la PSVR 2 et dans les deux années qui vont suivre, on aura la réponse vraiment de est-ce que la VR peut être un vrai marché pour le jeu vidéo. Alors, ça veut pas dire qu'ils doivent en vendre autant que de PS5, hein, bien sûr, mais ils peuvent pas garder ça comme activité un petit peu... comment dire, ça peut pas être un truc tiède, parce qu'ils investissent vraiment beaucoup, il semble, dans le développement et de matériel et de jeux. Donc oui, on aura la réponse, c'est sûr.
Et au-delà des chiffres de vente du matériel en lui-même, ça va être les chiffres de vente des jeux surtout qu'il va falloir observer, parce que même si le PSVR s'est écoulé à plusieurs millions, comme tu l'as rappelé, faut aussi voir la place que prend finalement au sein de la pratique du jeu qui est prise par la VR, qui est très faible. Moi, ce que je regarde tout le temps pour voir s'il y a des vrais phénomènes qui se créent, c'est est-ce qu'il y a des sites qui ne parlent exclusivement que de ça. Je connais pas vraiment de sites de jeux vidéo qui ne parlent que de VR et qui s'intéressent qu'à ça et qui va se focaliser là-dessus.
Il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que c'est rare. Il faut avouer aussi, et je suis sûr que les partisans de la VR le feront remarquer, il faut mentionner aussi qu'on est dans un creux. Hein, depuis 2-3 ans, il n'y a pas eu énormément de choses qui se sont passées dans la VR parce que tout le monde attend justement ces nouveaux matériels, je crois. Mais tu as raison.
C'est évident. Mais du coup, c'est est-ce que ça va réussir vraiment à s'installer et à créer de l'appétit pour les jeux? Tu vois, un peu comme le Wii Fit à l'époque où il s'était vraiment écoulé énormément. Ça avait eu un gain d'intérêt, ça avait un grand intérêt pour le public à un moment et puis ça s'est vite disparu, ouais. Comme l'appareil à raclette, quoi. Enfin, c'est j'en achète un, mais je ne l'utilise pas. Et c'est ça le souci. Ouais. Et j'ai peur que. C'est le problème, je pense, le plus grand problème, c'est le côté gadget, en fait, finalement. C'est que je vais l'avoir, je vais jouer à 2-3 jeux et finalement, ça ne va pas perdurer. Et il faut pouvoir inscrire, en fait, cette façon de jouer dans la durée pour que ça puisse devenir un véritable usage. Et dans ce cas, Sony pourrait vraiment être précurseur et être leader sur ce secteur, sans souci. Si jamais il arrive à l'inscrire auprès d'un public plus grand, en tout cas.
Écoute, comme je le disais, je pense qu'on aura la réponse à cette question tout à fait légitime avec cet appareil-là.
Il y a une excellente comparaison d'ailleurs dans le chat, j'en profite, c'est Pyram qui dit comme pour le cinéma 3D, et c'est vrai qu'aujourd'hui tu vois le cinéma 3D, bon c'est très sûr. Marginal, alors qu'à l'époque il y avait un énorme engouement, c'est un peu voilà, c'est le côté phénomène de mode. Alors la mode de la réalité virtuelle est assez récurrente, c'est le serpent de mer qu'on revoit de temps en temps, mais je pense, comme tu l'as dit Patrick, que c'est peut-être la dernière grande chance à saisir.
Tu dis comme le cinéma 3D, moi je me suis retenu de dire, quand tu disais comme le Wii Fit, j'avais envie de dire comme la Wii tout court, hein.
C'est oui, tout vendu, à fait. La Wii s'est beaucoup vendue. Au début, on va dire la première année, il y avait beaucoup de jeux qui se vendaient. Et puis sur la fin, c'était quand même assez terrible pour la console.
Ouais, c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté la Wii. Et puis comme l'appareil à raclette, dont on s'offusque d'entendre que certains ne l'utilisent pas beaucoup, encore dans la chatroom, ce que je comprends. Mais oui, la Wii aussi, beaucoup de gens qui l'ont acheté parce que c'était sympa avec le motion gaming, l'ont utilisé comme un appareil à la raclette ou comme... Un jeu de plateau, on le met dans le placard et puis on le ressort une fois par an quand il y a la famille qui est là. Quoi.
C'est ça. Bref. Et autant ça fonctionne pour un appareil à raclette, je veux dire, c'est un investissement. Autant pour une console, il faut que tu la fasses vivre avec des jeux. C'est nécessaire pour l'industrie du jeu vidéo derrière. C'est ça le souci principal.
C'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Quelqu'un qui vend une machine à raclette, Tefal se fait de l'argent sur la machine à raclette. Sur une console, généralement, le véritable bénéfice se fait sur la commission qu'ils prennent sur les jeux ensuite.
Parfait.
Quelques petites news rapides sur Sony également. On a le PlayStation Plus nouveau qui a été lancé en Asie. Alors, ils n'ont que 270 jeux. On en aura plus quand il arrivera en Occident. Mais vous savez, avec les trois étages du PS Plus, etc. Mais c'est surtout plusieurs choses qui sont intéressantes à noter avec ce lancement. D'abord, il y a certains jeux classiques du PS Plus qui ont des trophées. Alors, pas tous les jeux PS1, etc., mais il y en a qui en ont. Et je sais qu'il y en a qui a des joueurs qui apprécient beaucoup les procès.
Les
trophées.
Les deux.
Il est possible d'acheter des jeux classiques sur PS5, donc des jeux d'ancienne génération, sans avoir l'abonnement PS Plus. Donc, comme on avait eu des spéculations là-dessus, c'est confirmé, en tout cas là-bas. Par contre, là, une série de nouvelles un petit peu moins bonnes, c'est le moins qu'on puisse dire. D'une part, on a des jeux PS1 qui sont, encore une fois, les versions PAL 50 Hz. Alors, ça nous dérange moins, nous, d'avoir le... Tais-toi, Siri. D'avoir les jeux en PAL, mais la plupart des jeux étaient développés en NTSC, qui est le système japonais pour les gens qui s'en souviennent pas, des télés à tube cathodique. au Japon et aux États-Unis, on était en NTSC. Et la grosse différence entre PAL et NTSC, c'est que le NTSC est en 60 Hz, donc 60 images par seconde, et le PAL est en 50. Du coup, on passe souvent de... On avait généralement une fréquence qui était divisée par deux, donc on a souvent des jeux en 25 images par seconde. En plus, la taille de l'écran est réduite. Enfin, les jeux en PAL posent beaucoup de problèmes, et il y en a, encore une fois, plusieurs qui sont des jeux PS1 en version PAL dans le service d'abonnement. Donc ça, c'est une grosse déception. Alors, ce n'est pas tous. Hein. Il y en a certains qui sont NTSC quand même. Mais c'est quand même frustrant. Et puis, il y a eu un petit souci avec l'abonnement en question. C'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas lancé dans tous les marchés dès le début. Et vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de joueurs qui étaient abonnés d'une certaine manière et qui se sont vus demander un supplément par le système parce qu'ils avaient acheté un abonnement au PS Plus moins cher avec une réduction. Et du coup, le système leur a dit, bah, comme vous avez acheté avec une réduction, maintenant qu'on passe au nouveau PS Plus, il faut payer la différence. C'était assez scandaleux. Et j'étais curieux de la chose. En fait, ils ont des codes, ils ont différentes gammes de codes. Et ils ont des codes qui sont spécifiquement dédiés à des promos. Et donc, c'est des codes qui sont moins chers. Et donc, ils savent les retrouver. C'est pas juste que... je me demandais comment ils retrouvaient qui avait acheté des codes en promo. Mais bon, bref, il y a des codes qui sont moins chers. Et PlayStation a communiqué là-dessus hier en disant « Ouh là là, c'était une erreur, désolé, on a donné le remboursement aux gens, on a corrigé le problème. » Donc bon, on ne sait pas si c'était volontaire et qu'ils se sont pris un petit scandale. Je pense que c'était une erreur, mais voilà, c'est corrigé et ça n'aura pas lieu chez nous. Si vous êtes abonné pendant longtemps au PS Plus ancien, ça sera transféré sans demande de supplément au PS Plus nouveau. Donc voilà pour les quelques petites infos supplémentaires de chez Sony que j'ai passées là. Ça t'inspire quelque chose? Soit tu attends les jeux classiques en PAL parce que tu veux y jouer comme tu y jouais ici en France?
Je suis curieux de savoir pourquoi comment tu as su que c'était le truc qui m'intéressait le plus, c'était vraiment les jeux classiques. J'arrive effectivement à un âge où je tourne en boucle sur mes jeux et j'admire du coup, Patrick, ta capacité à rester toujours alerte sur les dernières informations, car moi, je commence à jouer de plus en plus à mes jeux Super Nintendo et Nintendo 64. Je suis dans une période très vintage, on va dire, très rétro. Et non, j'aime bien, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment le point sur lequel j'allais réagir, c'est sur ce côté... On prend soin du coup de notre catalogue et on ajoute même des nouvelles fonctionnalités à travers les trophées. Alors j'ai une période où j'étais à fond dans les succès sur 360 et il me fallait un succès au minimum par jour. Hein. J'ai fait ça pendant 3 ans, j'ai fait plus de 1000 jours de suite où j'ai réussi à avoir au minimum un succès par jour. J'étais très fier, c'était totalement inutile, j'avais du temps à perdre quand j'étais jeune. Et là voilà, je trouve que c'est une bonne manière en fait de remettre en avant des jeux parce qu'en plus, le problème du jeu vidéo, je dirais, c'est que tu as une considération assez négative sur les anciens jeux. Moi, à chaque fois que je joue à un jeu rétro, on me dit tu joues à ça ? Oui, mais en fait, c'est pas parce qu'on est en 2022 qu'un jeu sorti en 95 ou en 2000 ou en 2010 n'est plus valable. Tu vois, c'est comme si on disait que les films avant ta date de naissance n'existent pas et ça n'a pas d'intérêt. Non, c'est faux. Il reste de très belles choses. Et je trouve que dans le jeu vidéo, même si aujourd'hui, le rétro, il y a à boire et à manger, et on nous vend aussi parfois des jeux rétro à des prix exorbitants qui ne sont carrément pas justifiés. N'est-ce pas Nintendo avec son petit côté premium sur la 64 avec son émulateur dégueulasse. Mais voilà, je trouve qu'il faut pouvoir le remettre en avant. Et c'est une bonne manière de rapporter de l'intérêt et de pouvoir surtout avoir un moyen de les acquérir de bonne qualité. C'est toujours mieux, bien évidemment.
C'est ça qui est particulièrement notable, oui, le fait qu'on puisse les acheter même quand on n'est pas abonné, le fait qu'ils reviennent. Et on espère en fait que ça soit... Alors d'une part, cette question de version PAL ou NTSC mise de côté, qui est un peu frustrante parfois, on espère qu'ils vont... étendre cette possibilité et qu'à terme, on aura comme du côté de Xbox une grosse partie des jeux et du catalogue, on va dire, notable qui sera disponible. Ils ne le disent pas comme ça, mais c'est ce qu'on peut espérer, quoi. On verra.
On verra bien.
Dernière grosse news que je voulais évoquer, c'est un truc qui sera peut-être un petit peu niche pour certains, mais c'est le lancement du jeu, ou plutôt l'annonce du jeu Marvel Snap de Second Dinner. Est-ce que tu as suivi un petit peu ça? Je vais expliquer, hein, mais Marvel Snap, tu sais ce que c'est ou pas du tout?
Bah écoute, je me suis renseigné du coup dans le conducteur parce que j'ai découvert l'existence quand tu m'as invité pour l'émission. Mais sinon, non, c'est pas vraiment le genre de jeu auquel je joue. J'avoue que l'univers Marvel, je connais sans connaître. Hein, j'ai regardé quelques films, mais je suis pas forcément très. C'est pas que
très
je suis pas
client,
mais c'est pas quelque chose auquel je pense tout le temps, quoi. Tu m'aurais dit un Mylène Farmer Snap par exemple, voilà. mais là voilà. Et puis effectivement, donc voilà. À la Hearthstone, c'est un genre de jeu dans lequel il faut vraiment s'investir en plus sur le temps, et c'est pas quelque chose dont
et ben justement ça tombe bien parce que je crois que ce jeu pourrait potentiellement, de tous les jeux de ce type, être un truc qui pourrait te faire un petit peu changer d'avis, ou en tout cas t'intéresser, parce que ils ont une... Bon, la licence Marvel, ça reste Marvel. Hein. Si Second Dinner se met à faire un jeu Pokémon Snap, tu vois, par hasard, au hasard, je plaisantais avant quand je te parlais de participer à l'émission, je te disais... allez, c'est un truc Pokémon Snap, comme ça, ça va te plaire. C'est une suite, c'est un remake. Mais non, pas du tout. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que Second Dinner est une société qui a été fondée par Ben Broad, Hamilton Chu, Yong Wu et des personnes dont le nom ne vous dit peut-être rien, mais qui sont en gros les gens qui ont créé Hearthstone chez Blizzard. Donc, au-delà du fait que ça soit un jeu qui fonctionne bien, c'est une équipe qui, créativement, au niveau du design, a vraiment repensé les mécaniques ou la profondeur des jeux de cartes. Ils ont pris le principe des jeux Marvel, des jeux Magic, plutôt, et ils en ont enlevé tout ce qui était superflu dans leur esprit, et ils ont beaucoup fluidifié l'expérience. Et du coup, ils sont partis de Blizzard il y a 4 ans, et ils se sont lancés dans leur propre boîte. Ils ont eu la licence Marvel, ils ont un financement de Tencent, si je ne m'abuse, Tencent ou NetEase, enfin l'un des deux, je crois que c'est Tencent, et ils ont maintenant annoncé Marvel Snap, qui est un petit peu à Hearthstone ce que Hearthstone était à Magic. Ils ont simplifié la chose tellement, sans perdre de profondeur, ou en tout cas en perdant beaucoup moins de profondeur que ce qu'implique la simplification, que les jeux, les parties, peuvent se finir en 3-4 minutes. Avec, et donc évidemment, c'est clair, c'est un jeu mobile qui sera aussi sur PC, mais mobile avant tout. Je vais revenir à l'annonce quand même, parce que je saute un petit peu des étapes. Donc, ils ont annoncé Marvel Snap, qui est un jeu de cartes mobile et aussi PC, qui devrait arriver on n'a pas de date, mais on imagine les semaines, les mois à venir. La bêta a déjà commencé sur Android dans certains territoires. Et donc, comme je le disais, ils veulent simplifier énormément de trucs pour correspondre au marché mobile. Et
ouais, alors, si tu me permets, quand tu dis ils veulent simplifier, parce que j'ai lu les règles, hein, que tu as notées dans le conducteur, mais je me suis arraché les cheveux, j'essaie de comprendre. je ne te mets pas en cause, hein, à aucun moment, mais ça reste quand même un petit peu complexe, tu vois. Moi, tu me proposerais un Marvel Dame, ça m'irait très bien...
Marvel, oui, mais écoute, on va voir si je vais réussir à t'expliquer un petit peu. Allez. Ça, parce que c'est vrai que c'est un peu... nerdy, c'est un peu game designy, mais je pense que les gens qui sont intrigués par ce genre de choses pourront être intéressés, parce qu'ils ont réussi vraiment à simplifier les choses en distribuant la complexité pour qu'elle ne soit pas uniquement dans la manière dont on construit son deck. Je vous explique. Le jeu de base, donc, les parties durent environ 3 minutes. En fait, on a 6 tours d'une minute avec... des encouragements pour abandonner. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'on est encouragé à quitter la partie et à abandonner si on sent qu'on va perdre. D'une part, les deux joueurs placent leurs cartes en même temps à chaque tour. C'est-à-dire qu'on a les 6 tours et les deux joueurs placent leurs cartes en même temps. On n'a pas « d'abord c'est moi, ensuite c'est toi ». On place la carte et puis les cartes sont révélées et leurs effets sont activés. On a 12 cartes seulement pour chaque deck. Donc, on n'a que 12 cartes à choisir. Par contre, chaque carte a un effet spécifique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cartes qui n'ont aucun effet. Chaque carte dit, si vous placez cette carte ici, elle va ajouter des points aux deux autres côtés, par exemple. Hein. Mais chaque carte a un effet spécial. Et on doit en choisir 12 pour faire son deck. Donc, c'est beaucoup plus restreint que même dans Hearthstone, qui en avait une trentaine. Le but du jeu, c'est qu'on a trois lieux sur la carte, et à chaque fois qu'on place une, enfin sur le board, et à chaque fois qu'on place une de nos cartes, sa caractéristique puissance s'ajoute au lieu, tout simplement. Et à la fin de la partie, il faut que sur les trois lieux, on en ait gagné deux. Donc c'est celui qui gagne deux lieux sur trois. Mais on ne peut placer que quatre cartes maximum par lieu. Et donc, on place nos cartes à chaque tour, et au bout du compte, on compte qui a le plus de puissance sur chaque lieu, et celui qui en a gagné deux a gagné, sur six tours. Sauf que, il y a des petites subtilités. Évidemment, chaque carte a des effets particuliers, hein, ça je viens de le mentionner, mais les lieux ont aussi des effets particuliers. On a par exemple des lieux qui vont dire, attendez, j'avais pris quelques exemples, on ne peut placer qu'une seule carte ici. Ou alors, on ne peut placer que des cartes qui ont 3 ou 4 points d'énergie. Là, c'est une sorte de mana. Hein. Chaque tour, on gagne un point de mana à utiliser en plus dans le tour. Donc, premier tour, on a un point de mana, donc on peut, enfin d'énergie. Donc, on ne peut placer que des cartes qui coûtent 1. Tour 2, on en a 2. Donc, on peut placer une carte qui coûte 2 ou deux cartes qui coûtent 1, etc., etc. Mais sur certains lieux, on peut placer que certaines cartes. Ou alors, dans un lieu, on va avoir une caractéristique qui dit... Bah, sur ce lieu, ça va invoquer une carte au hasard quand vous en posez une autre, ce genre de choses. Et les lieux sont révélés pendant les trois premiers tours. Premier tour, on ne connaît que le premier lieu. Deuxième tour, le deuxième se révèle. Troisième tour, le troisième se révèle. Donc déjà, on voit de quelle manière la complexité, la stratégie du jeu n'est pas uniquement dans les cartes elles-mêmes. On a de la stratégie qui s'établit sur les lieux eux-mêmes, donc qui est distribuée en dehors du deck pour garder le truc intéressant. On a également cette mécanique de snap qui fait que, et c'est là que les gens sont encouragés à quitter la partie, entre guillemets, on joue pour gagner des cubes cosmiques, des cosmic cubes, qui établit votre rang de puissance. Au départ, on joue pour un cube cosmique, mais à n'importe quel moment, un joueur ou l'autre ou les deux peuvent snapper. Et ce que ça fait, c'est qu'au tour d'après, on va doubler la mise. Donc si on snap, le tour d'après, on va jouer pour deux cubes cosmiques. Au dernier tour, ça double encore. Donc si on arrive au dernier tour et qu'une personne a snappé, on va jouer pour quatre cubes. Et si les deux ont snappé, ça peut monter jusqu'à 8 cubes. Et à ce moment, quand la personne va snapper, on peut dire « Oula, moi je ne suis pas en très bonne position, je préfère perdre mon abandonné ». Partir, enfin filer et perdre un cube plutôt que d'en perdre deux si je continue et du coup j'abandonne, je perds mon cube mais je suis sûr que je ne vais pas en perdre deux. Et là où c'est hyper intéressant cette mécanique, c'est que au niveau du mobile, ça accélère encore les parties, ça permet aux gens d'abandonner sans forcément sentir qu'ils ont perdu parce qu'ils ont quand même gagné le fait d'être sûr de ne pas en perdre deux s'ils avaient continué. Et ça accélère les parties parce que certains vont peut-être partir à un moment. Ça amène aussi une mécanique un petit peu de bluff. Tu snaps, donc tu signifies à ton ennemi que tu penses vraiment pouvoir gagner et l'autre va devoir décider si il te croit ou pas, etc. Donc tout ça, ça amène des mécanique hein, ou de la stratégie supplémentaire qui n'est pas uniquement basée sur les cartes. Et les cartes, d'ailleurs, elles ont un coût en mana, en énergie et en niveau de puissance, et c'est tout. Il n'y a pas de point de vie, il n'y a pas de caractéristiques vraiment uniques sur les cartes, ou très très rarement. Donc, c'est relativement simple sans perdre la complexité ou la stratégie du truc. Il y a aussi tout un aspect graphique qui est assez sympa. Les cartes elles ont une sorte de parallaxe 3D qui est assez bien fait, des effets, enfin c'est plaisant quoi. C'est pas surprenant vu comment ça se passait sur Hearthstone. Et un dernier mot sur le business model. On n'a pas tous les détails encore. Ils disent on veut que toutes les cartes soient accessibles au bout d'un moment. Enfin, quand on joue pendant un certain temps sans payer. Mais il y a bien sûr une composante payante. Alors, les indices qu'ils ont donnés, c'est qu'on peut augmenter l'aspect visuel des cartes, ajouter du parallaxe, des petits effets supplémentaires, et ça nous fait monter notre niveau de deck en augmentant l'aspect visuel. Et en fonction du niveau de deck, eh ben on peut débloquer plus de cartes. Mais du coup, évidemment, j'imagine qu'on pourra payer avec un truc en jeu sans sortir de l'argent réel pour augmenter le niveau de deck. Donc augmenter la puissance des cartes, c'est uniquement du visuel hein, pour la puissance des cartes, mais on pourra aussi dépenser de l'argent et donc ça nous donnera toutes les cartes disponibles. Donc, on aura quand même une motivation à payer pour augmenter le niveau de deck, donc l'aspect esthétique des cartes. Mais ça aura un effet sur le jeu aussi, puisque ça vous donnera des cartes quand même, qu'on pourra obtenir même sans le faire. Et puis, il y aura un système de Battle Pass en plus. On verra sur les détails du business model à terme. Mais donc, moi, je trouve vraiment que le design du jeu est hyper malin. 6 tours d'une minute maximum, des parties de 3 minutes en moyenne, plutôt plaisant visuellement, quand même un aspect stratégique qui est distribué sur les cartes, les effets, les lieux. Pas de trucs inintéressants, genre des cartes qu'on va jouer sans aucun effet, qui vont juste être de la base. Je trouve ça assez intriguant et je suis assez curieux de l'essayer.
Moi, ça m'inspire une chose, c'est la reine d'Angleterre qui marche à cloche-pied avec une gaufre sur la tête, quoi. C'est Camoulox, quoi. Je suis pas le seul à être largué, hein. Fanny, dans le chat aussi, est larguée. Non, en vrai, je vois le côté simple, c'est une espèce de bataille améliorée, et effectivement, ouais. Mais je trouve que ça reste chargé graphiquement, et à chaque fois que je vois ce genre de jeu, je comprends totalement qu'il y a un public pour Hearthstone, moi, je suis juste pas tombé dedans du tout.
Je comprends, hein, c'est pas grave. Ça, on peut rester à 1000 ou hein, ça
je dis pas que je peux pas comprendre, je dis pas que je suis stupide, pas encore. Ouais. Mais c'est juste que j'ai pas pris le temps en fait de m'y intéresser. Et je pense que ça reste quand même des jeux pour lesquels il faut prendre du temps pour jouer malgré tout. Même si là, ça a l'air plus simple, effectivement, plus rapide. Et je suis d'accord avec toi. Le fait que ce soit extrêmement rapide avec cette possibilité de quitter au cours de la partie reste un bon moyen effectivement d'intéresser un public intermédiaire. Mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas un équivalent avec une licence forte au triple triade de Final Fantasy VIII par exemple, qui reste je trouve un des mini-jeux spin-off mais présent du coup dans le jeu là pour le coup. Je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas un univers comme ça qui se déploie, plus le fait que là soit Marvel, donc effectivement ça me parle moins, peut-être que s'il y avait eu Mario et Peach je me serais un peu plus intéressé, mais je pense que le gameplay aurait aussi été un peu plus simple, rien que le fait qu'il y ait deux chiffres machin sur le truc. Alors je sais que c'est pas compliqué, t'as un coût d'utilisation et une puissance, mais ça fait beaucoup de données en fait, je trouve, à l'image. Ouais. Je dis pas que c'est insurmontable, mais je pense que le mobile, c'est bien des jeux vraiment épurés, quoi. Et moi, là, ça me titille
donc
pas.
Donc, t'as l'impression qu'ils essayent de faire rentrer un truc qui est trop gros pour le mobile. C'est vrai que quand on voit... Moi, ça me parle parce que j'ai beaucoup joué à Hearthstone pendant un moment. Et je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont particulièrement fans de ce type de jeu. Donc, ça leur parlera aussi. Mais c'est vrai que quand je regarde le board, là, sur le mobile... Bon, il y a plein de choses à l'écran, quoi. Il y a quatre cartes, trois lieux, quatre cartes de chaque côté, le deck en dessous, les... Oui, ça, je comprends que ça soit un petit peu intimidant. Ceci dit, je pense quand même qu'il y a une démarche de design qui est hyper intéressante. Et pour les gens qui s'intéressent à ce type de jeu, à voir si ça touchera un public plus large. Bon, là, sur notre sample de une personne, c'est peut-être pas le cas. Mais pour les gens qui s'intéressent à ce type de jeu, je crois que beaucoup de gens vont être intéressés parce que ça offre vraiment... Contrairement à Hearthstone, dont les parties durent quand même 10-15 minutes, là, c'est vraiment une solution, une vraie solution... pour jouer à ce type de jeu, avec la profondeur de ce type de jeu, mais en mobilité. Et ça rejoint un petit peu la question des jeux, entre guillemets, pour vrais gamers, en mobilité, qui est en train d'être, comme pour le PSVR, là, on va avoir la réponse. Je crois que là, cette année, entre Diablo, Apex Legends, même un truc comme Snap, on va avoir la réponse de est-ce que les vrais gamers vont être intéressés par des jeux mobiles. J'ai eu, anecdotiquement, beaucoup de gens qui ont répondu... dans le Discord, par exemple, ça me parle beaucoup, quoi, mais qui était intéressé par ce type de jeu. Bref.
Pourquoi pas ? Après, tu vois, moi, c'est vrai que, à contrario, je me dis que peut-être qu'ils ont voulu aller trop loin dans la profondeur. Là où finalement, je sais pas, par peur que ce soit peut-être trop simpliste, mais en même temps, je me dis, avec une licence comme Marvel, avec Hearthstone, tu peux te permettre, tu vois, c'est pas une licence, tu peux te permettre de faire de la profondeur, de faire de la complexité. Le jeu est vendu comme ça. Là, avec une licence comme Marvel, est-ce qu'il ne fallait pas justement être un peu plus grand public ? C'est la question que je me pose, en fait, finalement.
C'est vraiment intéressant parce que comparé à un truc comme Hearthstone, qui lui-même était simplifié par rapport à Magic, là, au niveau de la complexité, de la charge mentale, c'est beaucoup plus simple. Mais du coup, ce que tu nous dis, c'est que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas une connaissance, un passif sur ces jeux-là, toi, c'est Overload, pour le coup.
Mais pourtant, je joue au jeu Pokémon, enfin au jeu de cartes Pokémon, ouais. Tu vois, qui est ultra simplissime. Mais j'ai encore des gens qui me disent « Oh là là, j'ai dû apprendre les règles, je trouve ça compliqué. » Alors que je trouve que le jeu de cartes Pokémon, tu vois, il est vraiment... C'est vraiment enfantin. Et je trouve que d'ailleurs, la version PC, qui est gratuite en plus, est très très bien, est bien conçue, est très claire graphiquement. Bon, on est sur PC, après, t'as plus de surface. Ouais. Mais peut-être que c'est ce qui manque. Moi, je trouve qu'il manque peut-être de simplicité et que ça reste quand même encore une étape un peu trop complexe, alors qu'on a une licence qui est très grand public. Et je pense qu'il y aura des déceptions quand même vis-à-vis de ce jeu, parce qu'il y aura forcément des joueurs qui voudront s'y intéresser et qui trouveront ça peut-être un peu trop complexe par rapport à leur attente.
C'est possible. Moi, je crois que... On verra. Mais la réponse, dans quelques mois, je pense qu'il ne tardera pas à sortir. D'ailleurs, Diablo Immortal, c'est la semaine prochaine en parlant de jeu mobile. Donc, ça arrive, c'est le 2 juin. C'est bien ça. Très bien. Eh bien, écoutez, on va continuer avec nos jeux du moment. Mais avant les jeux du moment, on va quand même remercier les Patriotes. Et oui, vous le savez, le moyen... unique de soutenir l'émission. Bon, vous pouvez m'envoyer des bisous sur Twitter, hein, c'est toujours apprécié. Mais si vous voulez contribuer financièrement à l'émission, vous allez sur patreon.com/rdvjeux et vous devenez un auditeur actif, un patriote, un membre de la famille, et vous soutenez un créateur que vous appréciez. C'est important, hein, mine de rien, parce que c'est vrai que le contenu, la création de contenu sur Internet, ben, c'est pas facile. Ça demande énormément de travail et c'est pas facile à monétiser également. Il y a beaucoup de gens qui se reposent sur la pub, mais ça amène des problèmes un petit peu différents. Moi, ce que j'apprécie, c'est ce modèle hybride où il y a effectivement un petit peu de pub, mais surtout le soutien des auditeurs, le soutien direct, comme à la vieille époque, hein, quand on achetait un magazine. Alors, il y avait de la pub dedans, mais on était essentiellement, on va dire, redevable à nos auditeurs ou à nos lecteurs à l'époque. On peut encore acheter des magazines, hein, il y en a des très bien, mais on est redevable à nos auditeurs et c'est vous qui faites exister cette émission. Et en plus de ça, vous avez des bonus plutôt sympas, comme par exemple le fait de ne pas avoir de pub justement dans votre flux privé, d'avoir des contenus bonus plutôt cool, d'avoir les time codes dans les notes de l'émission si vous voulez sauter un passage qui vous intéresse moins, etc., etc. Donc j'espère que vous appréciez suffisamment l'émission pour au moins considérer peut-être l'idée de devenir soutien du rendez-vous de jeu. Et pour ce faire, vous allez sur patreon.com/rdvjeux. Vous pouvez le faire tout de suite, hein, sur votre mobile. C'est comme Pokémon Snap, ça prend moins de 3 minutes. Vous pourriez là aller sur patreon.com/rdvjeux tout de suite. Le lien en plus dans les notes de l'émission. Et au bout de 3 minutes, vous seriez patriote. C'est merveilleux. Mais si vous ne le faites pas, bah, souvenez-vous, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol. Et ça fait cling, et là vous dites « Oh, mais oh, bien sûr !» Vous faites « Snap, Patrick, il faut que je pense à Patrick !» Ça fait cling, Patrick, et vous allez sur patreon.com/rdvjeux à ce moment chez vous, dans le confort de votre propre maison. Et je remercie tous ceux qui soutiennent déjà le rendez-vous jeu.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Allez, on parle des jeux auxquels on joue en ce moment. Monsieur le serveur, j'ai ouï dire que vous appréciez les jeux de type petit monstre dans la poche.
Tout à fait, et j'ai même un super pouvoir qui fait que j'hypnotise les gens, si bien qu'au lieu de dire Marvel Snap, tu as redit Pokémon Snap durant ton...
Ah oui
Tu vois
mais, non mais c'est à lui que je pensais.
J'ai hacké ton cerveau.
Non mais c'est à lui que je pensais, c'était complètement volontaire, je pensais à Pokémon Snap pour de vrai, parce que Snap, tu vois, photo, c'est aussi rapide qu'une photo. Non, non, ok, bon, très bien. Donc, Pokémon.
Ouais, c'est une passion, c'est une passion. Et c'est vrai que là, j'ai testé pour GK, j'ai testé Coromon. Je connaissais pas du tout. C'est Pouillou qui me dit tiens, je vais faire le test. Là, je découvre le jeu. Et j'ai vu les images, j'ai tout de suite été séduit par ce jeu. Parce qu'il y a ce côté très RPG SNES qui m'a tout de suite parlé et qui m'a plu. Bon, après, c'est vraiment un clone. De ce qu'il y a de plus basique de Pokémon. C'est-à-dire qu'on retrouve, là où ça m'a vraiment le plus choqué, c'est les combats avec les techniques. On retrouve littéralement des techniques complètement identiques en termes d'effet, en termes de puissance par rapport à Pokémon. Juste le nom qui change.
Ouais. Donc ça, c'est Coromon, c'est je précise, Coromon, tu l'as dit rapidement. Oui. Coromon, ce jeu.
Il Coromon. Est sur... Je dirais que dans le nom...
Ouais. Il est sur quelle plateforme, par curiosité ?
Alors, il est sorti sur Steam et devrait arriver sur mobile et sur Switch. Donc, déjà, ça, c'est très, très cool. Mais, alors, effectivement, donc, si en termes de gameplay, j'évacue tout de suite le côté clone en un peu plus simpliste, puisqu'il y a beaucoup moins de types. Il y a 6 types de Coromon, plus 7 types de capacités différentes. Donc, on peut avoir jusqu'à 13 types. Il faut que je fasse 6 plus 7 dans ma tête, c'est horrible. Jusqu'à 13 types de capacités différentes pour 6 types de Coromon. Ou c'est peut-être que c'est 7 types et 6 types. Bref, voilà, c'est le côté clone. Au-delà de ça, il y a une proposition qui est très, très intéressante sur deux points. Donc, j'ai parlé de l'aspect graphique SNES, qui est vraiment magnifié par les sprites des Coromon durant les combats. Je trouve les sprites absolument merveilleux. J'ai un amour indéfectible pour la 5e génération de Pokémon, donc les épisodes noir et blanc, où tous les sprites étaient animés et avaient beaucoup plus de vie que les modèles 3D actuels, parce que le sprite 2D permet des choses et a plus d'identité de toute façon qu'une modélisation 3D. Et là, on retrouve ça vraiment, on retrouve des designs très intéressants, à mon sens, avec des scènes de combat, enfin des zones de combat, des environnements de combat qui sont vraiment très jolis, que j'aime beaucoup. Une intrigue qui est assez, assez sympa, là aussi, c'est assez classique, avec une histoire de titan, finalement, donc une espèce de gros boss à affronter. Mais l'autre point que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une espèce de difficulté à la carte. C'est-à-dire que tu peux opter dès le début du jeu pour un jeu plutôt facile où on t'aide beaucoup, tes Coromon se soignent, machin, etc. Ils ne tombent pas dans les pommes. Tu peux faire un jeu très facile, comme tu peux faire un jeu plus exigeant et tu peux paramétrer en fait ton niveau de difficulté en fonction de différents paramètres qui permettent vraiment pour les aficionados, des défis Pokémon. Ils connaissent certainement le Nuzlocke Challenge. D'activer effectivement des défis assez, assez difficiles, et ça en fait un jeu exigeant. Ce qui est intéressant parce que Pokémon s'est grandement simplifié depuis la 6e génération, et donc là ça permet vraiment de contrebalancer et d'avoir une aventure très différente. Alors c'est un premier jeu, donc il est clairement imparfait, notamment en termes de rythme. Oui. Le début de l'aventure est bien calibré, et puis t'as l'impression qu'ils ont rushé pour faire la fin, et du coup t'as une espèce de toboggan vers la fin. Et du coup, c'est un petit peu dommage, là où le début est plutôt bien amené, et t'as l'impression que tu vas jouer pendant 40 heures, alors qu'au final, ben non, beaucoup moins. Mais c'est un très bon premier essai, et surtout, c'est pas cher, je crois que c'est une quinzaine d'euros sur Steam. Donc ça vaut le coup de s'y pencher si vraiment vous aimez bien Pokémon, et surtout si vous aimez les vieux jeux Pokémon. Il y a des choses assez amusantes. Et aussi, si on aime les RPG de la SNES vieille époque, type Illusion of Time ou Secret of Evermore, pourquoi pas. C'est pas du tout le même gameplay, mais il y a des gimmicks, il y a des morceaux d'intrigue, il y a des façons d'amener les choses qui forcément résonnent plus avec cette période-là. Donc c'est vraiment un jeu sympa.
Est-ce que ça serait un truc que tu recommandes comme le jeu Pokémon-like aux gens qui ne jouent pas à Pokémon, ou peut-être qui n'ont pas de Switch ou de plateforme Nintendo, genre c'est le Pokémon like à recommander sur plateforme PC?
Totalement. Pour moi, d'accord. c'est l'ersatz de Pokémon le plus réussi à ce jour.
Ah oui, d'accord.
Parce que d'ailleurs, tu as noté dans les autres news, on pourra en reparler.
Oui, on va en reparler, on n'a pas fini avec les Pokémon like. Ouais.
Effectivement, voilà, tu as Nexomon aussi, par exemple, je trouve le design est beaucoup plus raté. Là, je trouve que clairement, c'est le meilleur clone de Pokémon à ce jour.
D'accord. Coromon, du coup, qui est sur PC aujourd'hui, mais qui va arriver sur mobile et sur Switch, du coup. Dans la chatroom, on demandait, peut-être que c'est une question que certains se posent, est-ce que ça ne provoque pas un procès de Nintendo? C'est tellement proche du concept Pokémon. Et ça m'amène à une remarque que d'ailleurs certains ne connaissent peut-être pas non plus. En fait, le gameplay n'est pas du tout copyrightable. Le code n'est pas copyrightable, même s'il y a des gens qui essayent de changer ce statut. Le code et donc le gameplay par extension n'est pas copyrightable. Et j'avais regardé une vidéo super intéressante sur les industries qui ne sont pas copyrightables. Parce que souvent, on part du principe que le copyright est indispensable pour qu'une industrie soit... fleurissent. Bon, ça dépend des industries, évidemment. Il y en a pour lesquelles c'est absolument indispensable. Mais la personne en question parlait du fait que dans la mode ou dans la bouffe, dans la cuisine, il n'y a pas de copyright. Et donc, on doit se distinguer par d'autres moyens. Mais c'est des industries qui sont énormes dans lesquelles il n'y a pas de copyright. Et bien sûr, il y a certains éléments qui sont trademarkables, copyrightables, dans le jeu vidéo aussi, mais c'est des choses au niveau de l'art, le gameplay lui-même n'est pas, donc les personnages, l'histoire, ce genre de choses, mais le gameplay lui-même n'est pas copyrightable, donc ça explique pourquoi on a des clones, bah, de Pokémon, mais aussi de plein d'autres jeux. Et justement, en parlant de Pokémon, tu sais quoi ? J'en veux un petit peu plus. Si je veux plus de Pokémon, mais plus facile sur mon navigateur, je fais quoi ?
Ah, écoute, faut que j'en parle parce que c'est vraiment en train d'être un raz-de-marée alors que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, pardon, et que j'ai découvert en début d'année, et je crois que ça existe depuis 2008, ça s'appelle PokéClicker. C'est un idle game, comme le nom l'indique, à la cookie clicker, hein, c'est-à-dire que vous pouvez ne rien faire, et ça peut se jouer tout seul. Et le principe, en fait, c'est de te faire revivre les jeux Pokémon de manière très classique, donc tu refais la collection des badges, tu captures des Pokémon, et tout simplement en cliquant, hein, le but c'est de cliquer. Et c'est terriblement addictif, et surtout c'est que je trouve qu'en termes de gameplay pour un idle game, bah, je trouve ça vachement, vachement intéressant en fait, parce que t'as ce côté collection, puisque tous les Pokémon ne sont pas disponibles évidemment sur toutes les routes, et tu dois agrandir ta liste de Pokémon, tu dois acheter les objets d'évolution en résolvant des quêtes, tu dois explorer des donjons, tomber sur certains Pokémon rares, etc. Et puis tu voyages surtout de région en région. Alors il y a un fantasme classique qui n'arrivera jamais chez les joueurs de Pokémon, c'est toujours ils veulent leur jeu qui va leur permettre d'explorer toutes les régions existantes à ce jour. Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, bref, etc. Et écoutez, votre jeu finalement, le jeu que vous fantasmez existe,
c'est PokéClicker.
Voilà, il faut accepter effectivement que la forme soit différente, mais en vrai, pour un idle game, je trouve ça extrêmement intéressant. Tu as le principe de la pension, tu as le mini-jeu tiré de la quatrième génération de l'ExploraKit, donc pour creuser les fossiles, qui est assez sympa et qui fonctionne de la même manière, en plus intéressant, en plus. Donc c'est assez marrant. Enfin voilà, j'y ai passé des heures et des heures. Pour tout vous dire, j'y ai passé mon week-end dernier, mais vraiment du matin au soir.
Sur PokéClicker.
Mais oui, non, mais c'est terrible. C'est terrible. Il m'a fallu 20 heures quand même pour passer de la première région à la deuxième. Donc, comme quoi, c'est pas simple. Le problème, c'est les quêtes. Hein, il faut vraiment s'occuper des quêtes très rapidement. Mais écoute, bizarrement, ça se fait. C'est assez bizarre. Et j'en ai parlé sur Twitter comme ça au hasard, en disant je suis addict. Et il y a plein de gens qui vont dire ah mon Dieu, c'est terrible aussi, je me suis mis dedans. Donc, il y a un effet bizarre. C'est gratuit, évidemment. Et bizarrement, ça m'a vraiment étonné parce que là, pour le coup, Nintendo pourrait faire fermer le jeu parce qu'il y a Poké, parce que
il y a tout, c'est clairement Pokémon, ouais.
Voilà, clairement là, c'est du parasitisme, donc là ils peuvent le faire exploser à tout moment. Donc je dis profitez-en parce que là c'est sous la lumière. Je crois qu'il y a un streamer japonais en fait qui a fait un live il y a pas très longtemps et du coup ça a essaimé partout sur Twitch depuis et tous les médias en parlent. Et en général, quand il se passe ça, la Pokémon Company va pas être contente.
C'est
et là, il se peut-être de le faire fermer. Et ce serait vraiment dommage parce que c'est quand même intéressant. Donc, essayez-le, c'est assez rigolo. En une heure, en une bonne heure, on peut faire la quête principale, à savoir terminer la ligue. Faites au moins ça, je trouve ça assez rigolo.
D'accord. Oui, effectivement, ce genre de truc, quand ça commence à devenir un petit peu populaire, Nintendo s'y intéresse. Ouais. Super, donc ça s'appelle Poké Clicker. Et on rappelle, le jeu précédent, c'était Coromon dont tu parlais.
Exactement.
De mon côté, j'ai alors désespéré de ne pas avoir de temps. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire et je me suis remis à un jeu auquel j'ai beaucoup joué, mais que j'avais pas fini la campagne, c'est Destiny 2. Je me suis dit, je vais revoir mon backlog. Et dans mon backlog, il y avait la campagne de Destiny 2 de The Witch Queen qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Il y a quoi, 2 mois, 3 mois? Et je n'avais pas eu le temps de la finir. Et donc, je me suis remis à la campagne. Et j'ai réussi à la finir. Et je dis réussi à la finir, ce n'est pas anecdotique, parce que je l'ai faite en légendaire, qui est une nouveauté de cette extension. On peut faire la campagne normale en légendaire, qui n'est pas super longue en mode normal, mais en mode légendaire, bon sang, c'était hyper satisfaisant et surtout hyper dur. Vous savez que j'ai beaucoup joué à Elden Ring ces derniers temps et ben franchement la campagne, il y avait certaines encounters, certains passages qui étaient largement aussi difficiles que des boss d'Elden Ring. Il y avait des moments où il fallait vraiment savoir maîtriser son build, utiliser les bonnes armes au bon moment. C'était hyper hyper dur et hyper satisfaisant. Il y a des passages sur lesquels le dernier boss, j'ai dû réessayer, je sais pas, peut-être 50 fois pour réussir à le battre. Et c'était vraiment compliqué, mais évidemment, quand on apprécie le gameplay d'un jeu, ce genre de difficulté, c'est pas pour tout le monde. Hein. Si vous lancez dans Destiny demain, je vous le recommanderai pas. Mais du coup, moi qui joue à Destiny depuis très longtemps, j'ai vraiment apprécié ce mode de difficulté. Je retrouvais en fait la difficulté de certains donjons difficiles. Enfin, c'est très bien calibré, c'est vraiment sympa. Et puis là, il y a la nouvelle saison qui vient de commencer avec une refonte d'une des specs de chaque classe, la refonte des specs de feu. Donc, je suis en train d'y jouer un petit peu. Je sais que j'aurai pas beaucoup de temps, hein, parce que mes enfants sont tout le temps malades encore. Mais je suis en train d'y rejouer un petit peu et j'y prends du plaisir. Donc, Destiny reste une valeur sûre de mon côté. Je devrais dire Destiny, développé par Bungie, une société de Sony, ou qui est en train d'être acquise par Sony. On l'oublie parce qu'il y a une autre chose depuis. Mais ouais, Bungie est du côté de Sony maintenant. Donc Destiny, mais vraiment le truc qui m'a frappé, c'était cet aspect difficulté, quoi. Le parallèle avec Elden Ring, qui est le dernier jeu auquel j'ai joué longtemps, m'a vraiment frappé. Il n'a rien à envier à Elden Ring sur certaines rencontres. Donc voilà, c'est tout ce à quoi j'ai eu le temps de jouer ces derniers temps. Et du coup, on va passer au Lightning Round avec le reste de l'actu. Et une première info, ça y est, c'est arrivé, Lou. Enfin, le truc qu'on n'imaginait pas s'est enfin produit. Il y a eu un mois, non, c'est un mois ou une semaine, non, c'est une semaine où la Xbox s'est plus vendue que la PlayStation. Et oui, il s'est vendu 6000 Xbox Series S. Oui, au Japon, pardon. Oui, pardon. Au Japon, évidemment, tu as tout à fait raison. Parce que bon, évidemment, au Japon, la Xbox n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit.
C'était drôle, les chiffres de vente, c'était toujours drôle, les chiffres de vente, ouais, de la Xbox.
C'était dans la Xbox, la Xbox One, on était genre, il s'en est vendu 4 cette semaine dans le pays, certaines semaines. Bon bah là, la série S, qui est vraiment une bonne affaire pour Microsoft du coup, hein, s'est vendue à plus de 6000 exemplaires, 100 seulement pour la série X. Mais la PlayStation 5 s'est vendue à 2900 exemplaires, donc la série S s'est vendue 2 fois plus
que la PlayStation 5. Ouais, c'est fou.
Alors, évidemment, PlayStation 5, ils n'arrivent pas à en fabriquer. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que la demande est... Enfin, la demande est là, mais l'offre ne l'est peut-être pas. Puis, on imagine que la Switch continue à se vendre par camion entier, plutôt que c'est elle qui a le trophée. Mais une Xbox qui se vend plus qu'une PlayStation, j'aurais jamais cru voir ça.
Ah, c'est clair. C'est ouais, moi je me souviens les charges, je crois qu'ils n'existent plus les charges Japon sur Gamecult maintenant, mais je passais mon temps à regarder chaque semaine et je voyais toujours les chiffres de la Xbox qui étaient vraiment dans les tréfonds, et c'était assez drôle. C'est marrant le fait que, enfin c'est marrant, c'est culturel aussi le fait qu'ils aient jamais adhéré, mais de voir à quel point ils n'adhèrent pas du tout, ça a toujours été quelque chose de frappant. Ouais.
Et du coup là les gens se reportent sur la série S, hein, qui est moins chère évidemment, peut-être en attendant que la PlayStation soit dispo. Mais ils sont toujours les charts Japon, je crois, sur GameCube. Bon. Et du coup, on revient vers Pokémon et les Pokémon-like avec deux questions pour toi. J'ai vraiment pensé à toi pour ce...
Oh, t'es adorable.
Cette partie des news. Il y a Temtem, qui est lui aussi un Pokémon-like, qui était en Early Access déjà depuis un moment et qui arrive en... qui était en Early Access, je dis peut-être une bêtise.
En tout cas, il était en Early Access, sorti quand il y a 2 ans. Je l'avais testé pour... je crois que je l'avais testé pour... Non, je l'avais peut-être testé pour... je sais plus. Donc je crois que c'est Luma qui avait testé l'Early Access, mais j'avais joué aussi en tout cas.
Et pour le coup, c'est un Pokémon mais en 3D qui apprend les principes, mais qui colle beaucoup à Pokémon, un petit peu en MMO, et qui arrive donc le 3 septembre, c'est ça ?
Que je dise pas de bêtises. C'est ça. L'un des gimmicks aussi, c'est que tous les combats sont des combats doubles pour changer un petit peu par rapport à Pokémon. Ce qui est assez intéressant, moi ce que je reproche le plus, c'est quand même l'univers graphique. Je sais pas, j'accroche pas du tout à l'ADA. Surtout les créatures, tu dirais vraiment des Pokémon de Lidl. et encore non, parce que Lidl est vraiment en train de monter en gamme. Mais là, non, il y en a quelques-uns qui sont réussis, mais... Je sais pas, ça passe pas.
Ah, moi, je les trouve mignons quand même. Non,
je te dis, il y en a qui fonctionnent, mais c'est très impersonnel. Et les animations sont assez. Sont encore plus impersonnelles, justement, que dans Pokémon. Donc c'est dire. J'avais pas trop accroché. Mais t'as le côté multijoueur qui, effectivement, ajoute un petit quelque chose. Après, il y a sûrement eu des ajouts depuis que j'ai joué il y a 2 ans. Donc, forcément, vu qu'il passe en 1.0 maintenant. Donc, il y a forcément des nouvelles choses. Donc, peut-être qu'ils ont réussi à corriger des points de gameplay qui étaient un petit peu frustrants. Mais graphiquement, je vois que ça n'a pas trop changé. Donc, pour moi, c'est vraiment le vrai point noir.
D'accord. Bon, en tout cas, il est dispo sur à peu près toutes les plateformes. Hein, le 3 septembre. Non, le 6 septembre, pardon. Le 6 septembre, donc sur PC, Xbox, Switch et PlayStation, évidemment. Et l'autre, bon, c'est celui auquel, dont je voulais parler encore plus. D'ailleurs, au passage, un petit merci à notre ami Johan qui fait un Notion, qui a fait un journal de l'été JV. C'est le terme qu'il veut faire adapter. Je crois qu'il est en train de gagner en popularité l'été JV plutôt que les confs de l'été. Donc, de l'été JV. Et il a passé en revue les nombreuses heures de l'Indie Live Expo avec les trailers. L'Indie Live Expo en japonais, c'était un petit peu particulier, avec tous les trailers à retenir. Mais l'un d'entre eux, celui qu'on retient plus que les autres, c'est le nouveau trailer de Palworld, qui est lui aussi un Pokémon-like, mais dont on a déjà parlé, qui avait déjà été présenté, où on a enfin un regard objectif sur la manière dont se passe la vie entre les Pokémon et les humains, c'est-à-dire qu'ils sont complètement asservis aux humains, ils travaillent dans des usines, on leur tire dessus avec des fusils à pompe. C'est un regard hyper... troisième degré sur l'univers des Pokémon. Donc bon, c'est encore un trailer. On sait qu'il devrait arriver sur Steam cette année. Ce jeu, il est aussi en 3D. Peut-être graphiquement un petit peu plus réussi que Temtem. Mais je suis curieux du coup d'avoir l'avis d'un fan de Pokémon sur ce truc. Parce qu'au-delà de la plaisanterie de se dire on tire sur les Pokémon avec des fusils à pompe, est-ce que ça t'intrigue, ça t'intéresse ou ça te laisse, c'est pas pour toi quoi?
Je me souviens de la première fois que j'ai vu le trailer qui démarrait de manière très classique, le tout premier trailer. Mmh. Je comprends pas. J'ai du mal à. je suis très curieux et je sais pas si. Je sais pas s'il y a des manières de dénoncer ou je sais pas trop. Je sais que tu peux faire des usines, des choses comme ça et tout. Ouais. Regarde ça, c'est trop chelou. Il me plonge une perplexité, ce jeu, c'est terrible. Et en même temps, les créatures ont l'air vraiment pas mal hein, à côté. Donc,
Il y a un certain dynamisme dans les combats, des gros rayons laser, mais ça, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'au-delà de l'effet, effectivement, choc rigolo de, comme je disais, on a les Pokémon dans des usines, est-ce qu'il va y avoir un gameplay derrière? Est-ce que ça va être un vrai jeu derrière ou pas? Et c'est la grosse question, le sort de... de Pikachu géant avec sa mitrailleuse, c'est rigolo. Mais si le jeu n'est pas un vrai jeu derrière, il tombera dans l'oubli très vite. Mais donc à voir.
Je sais pas quoi en attendre. Honnêtement, c'est vraiment particulier et je suis pas sûr que le mélange fonctionne bien. Je sais pas quel public peut à la fois être intéressé par des guns et des créatures mignonnes. Ouais. Au-delà du gimmick, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un public pour ça.
Faudrait qu'il y ait un gameplay vraiment réussi pour que ça prenne quoi. Allez, quelques news rapides. On a la date de sortie de Modern Warfare 2, Call of Duty. Vous savez, ce jeu édité par la société qui est toujours plongée dans des scandales de harcèlement et de toxicité importants. Il sera disponible le 28 octobre 2022. On devrait avoir plus d'infos en juin, selon eux, donc certainement pendant les confs de l'été. L'été, j'y vais, si vous le préférez. Battlefield 2042... a mis à la retraite le mode Hazard Zone, qui était quand même l'une des grosses nouveautés de ce jeu-là. C'est un petit peu le naufrage qui continue. Alors, ils essayent de sauver ce qu'ils peuvent, mais on disait c'est l'une des grosses licences de EA. Je ne sais pas à quel point elle est encore grosse, Battlefield, à voir dans quelques années, hein, quand on aura le nouvel épisode chapeauté par Vince Zampella de Respawn, mais... Là, 2042, c'est vraiment compliqué. Ils retirent les fonctionnalités l'une après l'autre. Ils avaient d'ailleurs retiré le mode en 128 joueurs, qui était l'une de leurs grosses nouveautés. C'était une bonne idée sur le papier, mais ils n'avaient pas réussi à le concrétiser. On a un nouveau jeu Ni no Kuni qui est disponible en Occident. Alors, c'est un jeu qui était déjà disponible au Japon. C'est Ni no Kuni Cross Worlds.
Au début, j'avais lu Crosswords, du coup, je me disais, quoi, ils sortent des mots croisés Inokuni, mais quel intérêt ?
C'est Wordle.
Wordle Inokuni.
Ce qui est notable, c'est qu'il est dispo sur PC et sur Android et iOS. Donc, si vous voulez du Inokuni sur votre mobile, vous pouvez le télécharger. Il y a aussi Spec Ops The Line, qui va être lancé en juin. Pardon, pas Spec Ops The Line. The Cycle, qui est un jeu des développeurs de Spec Ops The Line. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que c'est le jeu le plus wishlisté sur Steam dans la catégorie des jeux gratuits. C'est un jeu PvEVP sur une planète alien qui est donc développé par les développeurs de Spec Ops. Et c'est le jeu le plus wishlisté sur Steam dans la catégorie gratuite, encore une fois. Mais j'en ai jamais entendu parler. Je crois que j'ai jamais entendu parler de The Cycle Frontier. Et pourtant, le plus wishlisté sur Steam. Quand on vous dit qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent dans le monde, et ça a l'air d'être un jeu... une grosse valeur de production. C'est quand même pas un petit truc ridicule. Bon, à voir s'il sera bien. Ça, j'en sais rien. Mais bon, jeu le plus wishlisté sur Steam, je n'en avais jamais entendu parler, je crois. Et je voulais parler aussi de Drova, qui est un action RPG qui me rappelle un petit peu Children of Morta au niveau graphique. Est-ce que tu as fait Children of Morta, Lou ?
Non, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai regardé. Je passe aussi mon temps à regarder des jeux sur YouTube, c'est pratique.
Eh bien écoute, il était vraiment, vraiment sympa. Et là, au niveau graphique et même un petit peu au niveau design, il a l'air d'être comparable. Alors, c'est encore un jeu dont je n'avais pas vraiment entendu parler, mais je voulais le mentionner parce qu'il est prévu, je crois que c'est pour cette année, mais c'est Drova Forsaken King qui a d'ailleurs une démo sur Steam que je vais tester bientôt, à regarder. C'est un style graphique qui est vraiment réussi. Et puis, un action RPG. Moi, je suis toujours un petit peu plus client. Donc, vous savez, il y a des dizaines de bandes-annonces et de nouveaux jeux qui sont annoncés chaque semaine. J'essaye de sélectionner ceux dont je vais vous parler, parce que sinon, ça prendrait 45 minutes rien que pour ça. Donc, celui-là, il m'a un petit peu tapé dans l'œil. Drova Forsaken King. Kin, pas King. Kin. Et puis, le truc what the fuck, c'est le crossover Yakuza, le jeu de Sega, hein, et Rainbow Six Siege. Il y a des skins Yakuza pour certains opérateurs de Rainbow Six Siege. C'est vraiment le truc que j'attendais pas. Donc voilà, si vous voulez jouer Echo en tant que Kiryu Kazama, avec tout son truc super classe de Yakuza, sa chemise ouverte et tout, et les cheveux gominés en arrière, et ben vous pouvez. Je suis en train de regarder Tokyo Vice sur HBO Max. Je suis complètement à fond dans le monde des Yakuza. C'est une série incroyable que je vous recommande. Donc, ça m'a parlé aussi. Et puis, quoi d'autre ? iFixit va vendre toutes les pièces détachées du Steam Deck. Toutes. Donc, si vous voulez, en fait, vous reconstruire un Steam Deck à partir de pièces détachées, vous pourrez peut-être le faire depuis iFixit. Mais ils vendent les cartes mères, les ventilateurs, enfin, tout, tout, tout. Donc, vous pouvez aller sur iFixit pour réparer votre machine. C'est bien pour le fait de pouvoir réparer, hein, tout simplement. Il est très ouvert, le Steam Deck. Donc, ça, c'est cool. Je pourrais jouer à Coromon dessus. C'est parfait. Et puis, je voulais mentionner aussi, dans la série des l'industrie du jeu vidéo a des problèmes chez les développeurs. D'une part, chez Activision Blizzard, dont on parlait à l'instant, l'équipe de QA de Raven Software a voté pour créer un syndicat. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que particulièrement aux États-Unis, c'est très, très compliqué de faire valoir les droits des travailleurs et qu'on soit pour ou contre les syndicats ailleurs. Je crois qu'il est clair qu'ils sont nécessaires pour avoir un dialogue possible dans une société. Et aux États-Unis, c'est encore plus compliqué qu'ailleurs. Et là, c'est pas une première, mais c'est assez rare dans l'industrie du jeu vidéo pour être mentionné. Et en plus de ça, Activision Blizzard a été condamné. Enfin, ils ont le board, le US Labor Board, le board des travailleurs, le comité des travailleurs, a déterminé que Activision Blizzard les avait menacés pour la formation de leur syndicat, ce qui est un droit légal évidemment. Donc voilà, encore des trucs pas super top du côté d'Activision Blizzard. Et on se dit, bah, ils vont être achetés par Microsoft, donc tout ira bien. Et bah, y a un rapport qui vient de sortir sur Microsoft et la manière dont certains c'est plutôt du côté de la tech que du côté du jeu vidéo, mais dont certaines stars de la boîte sont assez protégées encore aujourd'hui chez Microsoft. Et bon, c'est pas idéal non plus, et on ne sait pas si ça va jusqu'au côté jeux vidéo, mais ça fait pas très propre, quoi. Et enfin, un dernier truc, si on se dit, du coup, du côté de Nintendo, c'est les seuls qui sont encore protégés, pas du tout. Il y a eu des articles chez Kotaku, notamment, et Axios, qui relatent les problèmes dans la boîte aux États-Unis, chez Nintendo. Et il y a un super rapport chez IGN. Kat Bailey, la rédactrice en chef d'IGN, a fait un article et une vidéo sur le sujet qui sont super bien faits. Je vous encourage à aller les regarder. C'est « Inside the growing discontent behind Nintendo's fun facade ». Et c'est hyper intéressant parce que c'est surtout du côté des contracteurs. C'est-à-dire qu'ils emploient des gens, c'est souvent dans le customer support et dans le QA, le quality assurance. Ils ont des gens qui travaillent en fait pour Nintendo pendant des années et des années, mais qui sont des prestataires extérieurs et donc qui sont des citoyens de seconde classe en fait au sein de Nintendo en quelque sorte. Et en particulier aux États-Unis, ça semble être problématique. Et je voulais le mentionner pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est assez édifiant ce qu'ils disent sur la manière dont fonctionne Nintendo. Et d'autre part, parce qu'on critique souvent la presse jeux vidéo et on dit « Ah voilà, ils sont complaisants, ils sont machins ». Et IGN est l'un des représentants peut-être les plus grands publics de la presse jeux vidéo aux États-Unis. Ils sont absolument monumentaux. Et pourtant, ils n'hésitent pas. Ils ont fait beaucoup d'articles sur des sujets compliqués, IGN, ces derniers temps. Ils n'hésitent pas à faire ce genre de rapport. Donc c'est pour un petit peu tordre le cou à cette idée que c'était peut-être vrai à une époque, mais aujourd'hui, la presse est beaucoup moins complaisante. Elle fait un travail qui est compliqué parce qu'on a forcément des relations, enfin, ils ont forcément des relations proches avec les éditeurs et les développeurs, mais je trouve qu'on a eu de nombreux exemples de cette vigilance et de ce sérieux de travail journalistique. Donc voilà, juste pour le mettre en avant, IGN, qui n'est pas forcément ce à qui on pense en premier quand on se dit enquête sur l'univers du jeu vidéo, eh ben, ils ne sont pas privés.
Ouais, et pour rebondir, j'avais vu une interview de Reggie Fils-Aimé par un podcasteur américain, il me semble. Donc Reggie Fils-Aimé, c'était l'ancien directeur de NOA, qui est assez intéressante, qui expliquait en tout cas que lui, à son époque, c'était pas comme ça. Bon, après... Qui le veut le croit, c'est assez intéressant de l'écouter, et globalement je trouvais la bio de Régis Fils-Aimé assez intéressante aussi, donc je suis presque tenté de mettre ça à son crédit, mais c'est vrai que c'est pas forcément des sujets qui étaient simples à aborder avant. Aujourd'hui c'est peut-être plus facile, apparemment à l'époque, selon ce que disait Reggie, ils invitaient vraiment les citoyens de seconde zone, comme tu disais, avec eux, et c'était assez mélangé. Et ça aurait évolué. Enfin, je me souviens du coup de cette vanne de dans les commentaires de cette vidéo où c'est ce qui arrive quand on met Bowser à la tête de NOA, parce que c'est vrai que Doug Bowser maintenant, ouais, c'est le nom du nouveau président. Je ne dis pas que c'est de la faute du nouveau président de NOA, hein. C'est pas la question, c'était juste pour la petite vanne. Mais voilà, je trouvais cette interview assez intéressante aussi en contrepoint.
Bah, c'est un truc dont il parle dans son livre que j'ai lu la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus, qui vient de sortir, Disrupting the Game, je crois. Et il parle de ça. Il dit, quand il est arrivé à NOA, il parlait avec les HR et il disait, mais quel programme vous avez en place pour l'évolution des employés, pour qu'ils puissent croître dans leur rôle, etc. Et les gens des HR lui disaient... « Ah non, mais tu sais, on est une boîte japonaise, nous, on ne fait pas ce genre de choses. » Il a presque refusé le boulot. En plus, lui, il a un background, il est haïtien d'origine, enfin, c'est pas un mec blanc, tu vois, il est déjà à la base sensibilisé à ce genre de choses. Mais je crois qu'il parlait beaucoup, alors, je ne sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'il fait un petit peu des pirouettes, il parlait de Nintendo en interne. Il y a une discussion avec Jeff Keighley, d'ailleurs, à la fin du livre, qui est l'ami des stars, hein, Jeff Keighley, et il parle de ce genre de choses aussi, mais on a l'impression qu'il parle de l'intérieur de Nintendo, les relations, et quand IGN, justement, lui a posé la question à ce sujet spécifiquement, il dit « Moi, j'ai fait tout pour intégrer les gens et être... » Mais c'est un petit peu facile aussi, comme tu le dis, le croit qui veut, quoi. Je ne sais pas si il était quand même à la tête de la boîte pendant longtemps. Ça me paraît curieux, peut-être que c'est le cas, hein, mais ça me paraît très curieux que tout à coup, quand il est parti, les choses se sont complètement inversées, même si c'est peut-être le cas. Les gens qui témoignent aujourd'hui du Quality Assurance et du CS semblent dire qu'ils y sont depuis 10 ans et que cette situation n'a pas commencé hier, quoi. Donc, bon, je ne sais pas, peut-être que lui a beaucoup amélioré les choses, c'est possible, à l'intérieur de Nintendo of America, et qui sait pas, ou qui n'a pas eu le temps de se préoccuper des contracteurs. C'est des trucs sur lesquels il insiste, hein, dans son livre, les questions de développement personnel et d'inclusivité en parallèle. Donc ça a l'air de lui tenir à cœur quand même. Bref, bah je crois qu'on arrive au bout de cet épisode du Rendez-vous Jeu. Quel bon moment passé en ta compagnie, Lou. C'était un délice comme à chaque fois.
Ah, bah c'est toujours un plaisir.
Si les auditeurs veulent prolonger ces moments heureux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Où peuvent-ils aller?
Ah, bah, ils peuvent me retrouver sur Twitter, @AlexLeServeur, et puis bien sûr sur YouTube, où il y a plus de 400 let's play de jeux différents, du rétro et de l'actu. Lou Lassinafouber, hein, mon nom, ou Alex Le Serveur, et puis Twitch aussi, Alex Le Serveur.
Écoute, on mettra le lien vers le compte Twitter dans les notes de l'émission. Comme ça, je suis sûr qu'on pourra retrouver tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. NotePatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, y compris bah, le Twitch, si vous voulez vous joindre à nous le jeudi midi pour le rendez-vous jeu ou le mardi midi pour le rendez-vous tech. Vous pouvez également nous rejoindre sur Discord, un endroit où on a des gens super sympas qui discutent, qui papotent. C'est des bons moments partagés. Et puis, bien sûr, patreon.com/rdvjeu. Tous les liens sont dans les notes de l'émission. Mais si vous voulez soutenir l'émission et devenir un contributeur actif parce que vous appréciez ce que je fais, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeu et vous aurez en plus les petits contenus bonus et tous les émissions sans pub, tout ça. Pensez-y, vous arrivez chez vous, cling les clés dans le bol, Patrick ! Voilà, ça fait Patrick dans la tête. Si je vous ai suffisamment bien conditionné, vous y penserez ce soir et peut-être que vous ferez un tour sur le Patreon. Merci à vous tous d'avoir écouté et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Ah, j'ai réussi à faire toutes les transitions sonores sans faute. Ça commence à rentrer.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.